VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, la France conservera une force de réaction rapide en Centrafrique alors que la mission des forces françaises envoyée mettre fin au chaos dans le pays après 3 ans s'achèvera fin octobre, a annoncé aujourd'hui la présidence française à l'issue d'un conseil de défense. Ce contingent français, doté d'une capacité d'intervention militaire sur court préavis, pourra être mobilisé à la demande du gouvernement centrafricain en cas de menace sérieuse contre la paix ou les institutions du pays, a précisé l'Élysée. Dans la phase de stabilisation qui s'ouvre, la France continuera aussi à participer à la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, et à la mission de formation de l'armée centrafricaine mise en place par l'Union européenne, a souligné le gouvernement français. Et on sait à toujours, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné hier les violences de lundi à Bangui. Le numéro 1 de l'ONU a déploré les attaques contre la MINUSCA au cours desquelles 5 casques bleus ont été blessés. Les précisions de Jean-Roger Bion.
4 civils ont été également tués et 14 personnes blessées dans les violences de lundi à Bangui, où un collectif de la société civile centrafricaine avait appelé à une journée ville morte pour demander le retrait de la force de l'ONU accusée de passivité face aux groupes armés. Dans un communiqué, Ban Ki-moon a salué la détermination du gouvernement à garantir que les auteurs et les instigateurs de ces attaques soient traduits en justice. Il a également salué l'engagement de la MINUSCA à enquêter et à réaffirmer que cette force de maintien de la paix prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils et pour renforcer la stabilité. Ces actes ne doivent pas saper le travail important de reconstruction des infrastructures du pays et de sa cohésion sociale, de promotion de la réconciliation et du redressement économique et de renforcement de l'état de droit, ajoute le communiqué. M. Ban se dit enfin convaincu que la prochaine conférence des donateurs à Bruxelles, le 17 novembre, va renforcer le soutien des partenaires internationaux à ses priorités majeures.
En RDC, la coalition d'ONG et de mouvements citoyens congolais ont annulé aujourd'hui un sit-in prévu devant le siège de l'Union africaine à Kinshasa pour se conformer à l'interdiction de toute manifestation publique dans la capitale congolaise. Fin septembre, les autorités ont interdit toute manifestation publique à caractère politique à Kinshasa après les manifestations des 19 et 20 septembre qui avaient fait 53 morts selon l'ONU. Une centaine d'organisations de la société civile avaient appelé le peuple congolais à s'exprimer pacifiquement à travers tout le pays les 26 et 27 octobre devant les assemblées provinciales. Et à Kinshasa, ces organisations avaient appelé à un sitting devant le siège de l'Union africaine pour exiger le départ du président congolais Joseph Kabila à l'issue de son mandat le 20 décembre. En France, le tribunal qui juge un appel dans la banlieue parisienne Pascal Simbi Kangwa, premier Rwandais condamné dans le pays pour le génocide de 1994 au Rwanda, a rejeté aujourd'hui la demande de la défense d'annuler le procès pour inégalité des armes avec l'accusation. La défense de Simbi Kangwa avait souligné hier à l'ouverture du procès devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis qu'elle avait des moyens dérisoires comparés à ceux de l'accusation. Le parquet de Paris, qui dispose d'un pôle spécialisé pour lutter contre les crimes contre l'humanité. La Cour a rétorqué que ce n'était pas elle de se prononcer sur les composantes d'un procès équitable. Le procès s'est donc poursuivi avec les questions sur la biographie de l'accusé, détenu depuis 2009 au centre pénitentiaire de Fresnes, près de Paris. Poursuivi pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, Simbi Kangwa avait déjà été condamné en première instance à 25 ans de réclusion criminelle. Et toujours concernant le génocide de 1994 au Rwanda, le parquet et la police en Suède ont annoncé hier l'arrestation d'un Suédois d'origine rwandaise soupçonné d'avoir participé à ce génocide. Les détails avec Nani Talani.
L'homme, âgé de 48 ans et dont l'identité n'a pas été révélée, a été interpellé à son domicile d'Orebro, à 160 km à l'ouest de Stockholm. Arrivé en Suède en 1998, il a été naturalisé en 2006. Le parquet suédois a indiqué ne pas pouvoir donner plus de précisions sur les faits qui lui sont reprochés. En 2014 et 2016, la Suède a condamné 2 autres Rwandais, Stanislas Mbanenande et Claver Berikidi, à la prison à perpétuité pour leur participation au génocide au Rwanda. Ces 2 hommes étaient naturalisés suédois et ont été condamnés sur la base des témoignages des survivants. Des condamnations ont également été prononcées dans d'autres pays européens, aux États-Unis et au Canada. En France, le procès en appel de Pascal Simbi Kangwa, premier Rwandais condamné à 25 ans de prison pour génocide, s'est ouvert hier devant les assises de Bobigny, près de Paris. Déclenché le 6 avril 1994, le génocide rwandais a fait, selon l'ONU, quelque 800 000 morts en 3 mois.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le gouvernement gambien a annoncé mardi son retrait de la Cour pénale internationale, la CPI. Banjul accuse la juridiction de passer sous silence les crimes de guerre des pays occidentaux pour ne poursuivre que les pays africains. L'annonce de la Gambie augmente la pression qui pèse sur la CPI, accusée de poursuivre un programme néocolonialiste en Afrique. 9 de ses 10 enquêtes actuelles concernent le continent africain. L'Afrique du Sud a décidé vendredi dernier de se retirer du tribunal de La Haye. Le Burundi a déjà prévenu de son projet de quitter la CPI et le Parlement kényan examine cette possibilité. En Somalie, des centaines de militants du groupe islamiste Al-Shabaab qui ont fait défection se voient offrir une seconde chance. Un programme appuyé par l'ONU les aide à préparer leur réintégration au sein de la société. Le reportage à Baïdoa de Jason Patinkin, présenté par Lionel Gaïma.
Le centre de réhabilitation propose aux anciens militants d'Al-Shabaab divers cours, y compris la religion. En outre, ils élaborent des projets pour les aider à se prendre en charge une fois sortis du centre. Mais il sera difficile de se défaire complètement du passé, reconnaît cet ancien membre d'Al-Shabaab. Je ne peux absolument pas aller où Al-Shabaab est présent. Et si je vais en ville, la communauté ne se sent pas en sécurité. Le mieux est de rester dans le centre jusqu'à ce que le temps passe et que la communauté soit mieux informée à notre sujet. La réhabilitation des anciens militants islamistes prend du temps, notamment du fait de points de vue extrémistes de certains. À ce jour, aucun des anciens militants réhabilités dans le centre de Baïdoa n'est retourné dans les rangs d'Al-Shabaab. Le processus est loin d'être parfait. Par ailleurs, les habitants locaux se demandent pourquoi d'anciens terroristes bénéficient de toute cette sollicitude alors qu'eux ne reçoivent rien. Patrick Lutz, de la mission d'assistance de l'ONU en Somalie, estime que ce centre joue un rôle vital. Cela, en quelque sorte, rassure certains groupes au sein d'Al-Shabaab pour qu'ils prennent contact avec le gouvernement actuel et disent « entamons de pourparlers de paix ». Pour ce responsable onusien, c'est l'offre d'une seconde chance, une goutte d'eau dans la mer, mais une goutte d'eau au bon endroit.
Mozambique, une rencontre entre deux médiateurs des pourparlers de paix dans le pays et le chef du principal parti d'opposition, Afonso Dhlakama, a échoué en raison des combats entre l'armée et l'ex-rébellion. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui l'opposant dans la presse. Ce rendez-vous prévu samedi dernier visait à débloquer les discussions lancées en mai à Maputo pour mettre fin au conflit larvé entre le gouvernement et la RENAMO, l'ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine entre 1976 et 1992. Dans le centre du pays. Présidentielle américaine 2016, la démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump ont jeté toutes leurs forces hier dans la bataille pour la Floride, état crucial que le candidat républicain en position d'outsider ne peut pas se permettre de perdre. Le point avec Jacques Aristide.
Oui, la péninsule ensoleillée a fréquemment été décisive pour la présidentielle américaine. Personne n'a oublié que là s'est jouée l'élection ultra-controversée de 2000, finalement attribuée à George W. Bush au détriment d'Al Gore. 16 ans plus tard, la Floride sera pour Donald Trump synonyme de sa passe ou sa casse. La perte de cet État enterrerait ses derniers espoirs et ouvrirait pour sa rivale démocrate une autoroute vers la Maison-Blanche. Le milliardaire républicain l'a lui-même admis dans une conversation téléphonique hier avec Fox News. « Vous ne pourrez pas remporter la Maison-Blanche sans gagner en Floride, n'est-ce pas ?» lui a demandé un journaliste de la chaîne conservatrice. « C'est sans doute vrai », a répondu Donald Trump. Voilà pourquoi le candidat qui promet de faire mentir les sondages prédisant sa défaite met le paquet cette semaine sur le Sunshine State en y consacrant 3 jours de présence d'affilée.
Et toujours concernant la présidentielle américaine, l'ex-secrétaire d'État américain Colin Powell a annoncé qu'il votera le 8 novembre pour la candidate démocrate Hillary Clinton. M. Powell estime que Donald Trump n'a pas la qualité requise pour être président des États-Unis. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.